Et je vous invite à prendre vos Bibles pour les ouvrir dans le livre des psaumes, au psaume 125. Cantique des montées. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien, et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec eux, avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. Et nous lirons deux textes qui résonnent un petit peu de certains éléments qui sont dans ce psaume. Le premier dans Ésaïe 54, le verset 10. Dans le psaume 125, il est dit que l'Éternel est comme une montagne, c'est-à-dire stable, solide. Et Ésaïe 54 nous dit, dans verset 10, que même si les montagnes bougeaient, Dieu resterait stable. Hein, verset 10 d'Ésaïe 54. « Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et un deuxième texte qui fait écho, dans une autre mesure cette fois-ci, dans 1 Corinthiens 10, et nous lisons le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Avez-vous déjà vu une aiguille dans laquelle on peut mettre un fil ? Ça va ? Si vous n'avez jamais vu ça, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire là, mais vous avez déjà vu, c'est très bien. Donc il est impossible de passer le fil dans le trou d'une aiguille en étant ballotté. Vous pouvez essayer, c'est pas possible. Vous pouvez demander à Mauricette, elle vous expliquera. Et il est également impossible de comprendre quoi que ce soit de la parole de Dieu sans que le Saint-Esprit nous stabilise. C'est pour ça que nous comptons encore aujourd'hui sur son œuvre, pour que nous puissions saisir sa parole. Vous savez, nous vivons dans un monde instable. Quel sera le prochain danger auquel nous devrons faire face? C'est vrai que de multiples traités de paix, des pourparlers, des accords sont signés à longueur d'année, et pourtant, nous n'avons aucune assurance de stabilité. Et nous nous sentons même parfois de moins en moins en sécurité. Le corps de Christ, qui est manifesté visiblement par l'Église locale, a besoin de stabilité et de sécurité devant les dangers qui menacent. Et notre pèlerinage sur cette terre, heureusement, est accompagné par la parole de Dieu, qui nous indique d'où nous venons, qui est notre secours, quel est notre objectif, vous savez, ce royaume de justice et de paix éternelle. Nous y trouvons même des conseils de où placer notre regard, et d'être reconnaissant pour les délivrances que Dieu nous a données. Et nous trouvons tout cela, en fait, dans les psaumes des montées. Psaumes des montées depuis le psaume 120, et aujourd'hui nous arrivons au psaume 125. Donc, revenons à cette notion de tous ces éléments que je viens d'évoquer, donc d'où vient notre secours, notre objectif, etc. Eh bien, nous les trouvons dans les psaumes des montées, qui commence au psaume 120. Et nous sommes aujourd'hui au psaume 125 dans notre cheminement. Et ce psaume 125, en fait, nous aide à cheminer avec confiance, car l'Éternel est notre stabilité. Et le titre de cette prédication pour ce psaume 125, c'est justement « La stabilité du pèlerin qui se confie en l'Éternel ». Et ce psaume, en fait, est divisé en deux parties. La première, c'est un constat. Et la deuxième, une prière. Première partie, le pèlerin fait un constat. Et la deuxième partie, le pèlerin adresse une prière à l'Éternel. Ce sera nos nos deux points en fait de cette prédication. Donc le premier point, le pèlerin constate la stabilité en l'Éternel. Je vais relire les trois premiers versets qui concernent cette partie. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. La condition de la stabilité, je vous la donne tout de suite, c'est la confiance en l'Éternel. C'est la confiance en l'Éternel. Jacques nous dit que celui qui doute, donc qui n'a pas confiance en l'Éternel, est semblable au flot de la mer que le vent soulève et agite. Le psalmiste dit ici que celui qui a confiance en l'Éternel est comme une montagne qui ne chancelle pas. Le vent, l'orage et l'ouragan ne peuvent rien contre la montagne, alors que le flot est agité par une simple brise. Alors regardons ensemble trois conséquences que ce texte nous indique de placer sa confiance en l'Éternel, qui va souligner cette stabilité en lui. En nous confiant à l'Éternel, nous sommes ainsi, je vous les donne déjà, ensuite on va un petit peu les creuser, donc nous sommes fondés sur l'Éternel, nous posons sur un fondement inébranlable. Deuxièmement, en nous confiant à l'Éternel, nous sommes entourés par l'Éternel. Il n'y a aucune brèche dans cette protection. Et troisièmement, en nous confiant à l'Éternel, nous sommes défendus par l'Éternel. Rien ne peut nous obliger à pécher. Donc, creusons un petit peu ensemble. Premier élément, cette première conséquence, que nous sommes fondés sur l'Éternel. Et pour bien comprendre cette conséquence, nous devons bien connaître un aspect de l'Éternel. Et cet aspect de l'Éternel, c'est son immuabilité ou immutabilité. Et là, je vais vous lire en fait ce qu'un théologien a écrit qui me semble très intéressant et utile pour ce sujet. Donc voici ce que Berkhof dit sur l'immutabilité. Par cette perfection de Dieu, on veut exprimer qu'il n'y a de changement ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses desseins et ses promesses. En vertu de cet attribut, il est exalté au-dessus de tout et est libre de toute croissance positive ou négative dans son être ou ses perfections. Sa connaissance et ses plans, ses principes moraux et ses volontés demeurent les mêmes toujours. Même la raison nous enseigne qu'aucun changement n'est possible en Dieu, puisqu'un changement s'opère soit positivement, soit négativement. Mais en Dieu, en tant que perfection absolue, amélioration ou détérioration sont l'une et l'autre impossibles. L'immutabilité divine ne devrait pas être comprise comme l'immobilité, comme s'il n'y avait aucun mouvement en Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est en communication multiple avec les hommes, comme s'il vivait leur vie avec eux. Il y a changement autour de lui, dans les relations entre les hommes et lui, mais aucun changement dans son être, ses attributs, son dessein, ses motifs d'action, ses promesses. Si l'Écriture évoque son repentir, son changement d'intention, de relation avec les pécheurs qui se repentent, nous devrions nous souvenir que ce n'est là qu'une manière anthropomorphique de parler. En réalité, le changement n'est pas en Dieu, mais dans l'homme et dans ses relations à Dieu. Fin de citation. C'était bien dense, mais pour qu'on comprenne que Dieu ne change pas. Et cette doctrine de l'immutabilité de Dieu permet de combattre plusieurs doctrines. La doctrine pélagienne ou arminienne qui dit que si Dieu ne change pas dans son être, il change dans sa connaissance et sa volonté, car ses décisions, jusqu'à un certain point, sont dépendantes des actions humaines. Mais la doctrine de l'immutabilité indique clairement qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu, comme le dit Jacques 1, 17. Cette doctrine de l'immutabilité ou immuabilité de Dieu permet aussi de combattre la doctrine évolutionniste qui veut nous faire croire soit que Dieu se développe graduellement, ou plutôt que l'homme a graduellement inventé Dieu en passant par diverses étapes. Mais l'immutabilité indique clairement que Dieu est depuis toujours et qu'il n'a pas changé, comme le dit si bien le psaume 90 au verset 2, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Il n'a pas changé. Pour une méditation plus approfondie sur cet attribut incommunicable de Dieu, n'hésitez pas à lire ou relire le chapitre 7 du livre « Connaître Dieu » de Packer, qui vous permet de plonger dans cet attribut de Dieu et vous permet de voir que Dieu est un Dieu stable. Le fait que Dieu soit immuable et ne change pas toujours d'avis, et qu'il accomplit ce qu'il a décrété, nous donne une grande stabilité. Le fait que Dieu est inébranlable, solide à toute épreuve, nous donne un fondement d'une grande stabilité. C'est toute la différence entre être assis dans une petite barque ballottée à tout vent sur un lac en furie, ou être assis sur un rocher inébranlable qui ne craint pas la tempête. Le fait que Dieu n'est pas corruptible et sans aucune secousse d'infidélité nous permet de compter sur lui à chaque instant, et cela nous donne une stabilité. Nous pouvons donc nous appuyer sur ses promesses, étant pleinement convaincus qu'il les accomplira en son temps, qui est d'ailleurs toujours divinement le meilleur. La première conséquence de placer sa confiance en Dieu est que nous reposons sur un Dieu stable. La deuxième conséquence de se confier en Dieu est que nous sommes entourés par l'Éternel. Et là, plusieurs textes de la parole nous parlent de cette protection divine. Dieu dit par exemple à Abraham en Genèse 15:1, « Je suis moi-même ton bouclier. » Non mais c'est une protection extraordinaire. Dieu lui-même est son bouclier. Celui qui entoure par derrière et par devant, comme nous lit le psaume 139, est une protection complète. Il n'y a aucune brèche dans cette défense. L'Éternel dira même pour Jérusalem, lieu de la présence de Dieu, dans Zacharie 2, « Je serai moi-même pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Vous imaginez une muraille de feu autour de nous, car les enfants de Dieu sont le lieu de la présence de Dieu, le temple du Saint-Esprit. J'ai lu plusieurs récits qui nous rapportaient des protections particulières de Dieu. Par exemple, deux missionnaires infirmières s'étaient fait piéger par la nuit dans une forêt en Thaïlande, il y a quelques années. Ils n'avaient d'autre choix que de dormir dans la jungle. Donc, ils se sont remis entre les mains de Dieu et se sont endormis. Pendant la nuit, des brigands ont découvert nos deux chrétiennes et projetaient de leur faire du mal et de les voler. Mais au moment où ils ont voulu s'approcher de nos deux enfants de Dieu qui dormaient paisiblement, 16 gardes, 16 soldats étaient autour d'elles. Les brigands terrifiés se sont enfuis et l'un d'eux par la suite s'est converti et a rapporté les faits aux missionnaires, qui ont été puissamment encouragés par cette protection particulière. Elles ont littéralement vécu ce qui est dit dans le psaume 34 au verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Elles ont été d'autant plus frappées par la merveilleuse protection de Dieu en apprenant par la suite que les 16 gardes autour d'eux, cette nuit-là, correspondaient au nombre de personnes qui priait pour elle ce 13 décembre dans un groupe de prière en Angleterre. Dieu se plaît à nous faire participer à son œuvre. Nos prières pour les autres ne sont jamais inutiles. C'est un puissant encouragement pour prier pour les autres. L'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Il l'a fait tout au long de l'histoire de son peuple dans la Bible, et il continue à le faire dans l'histoire de l'Église. Et si cette muraille de feu, ces montagnes et ces anges ne sont pas forcément visibles, sa protection n'est pas moins efficace. Et jamais il ne permettra qu'un seul de ses enfants ne périsse éternellement. Jamais. Est-ce que vous avez remarqué les deux mots qui définissent le moment où l'Éternel entoure son peuple? Ils se trouvent à la fin du verset 2. Regardez au verset 2. À la fin du verset 2, il y a deux mots qui définissent à quel moment l'Éternel entoure son peuple. Ces deux mots sont « maintenant » et « toujours ». « Maintenant » est un mot que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, parce qu'il permet de comprendre qu'il est valable à tout moment. À chaque moment de votre vie, vous pouvez dire « maintenant ». Donc il n'y a aucun moment dans notre vie où nous ne pouvons pas dire maintenant. Nous retrouvons ce terme par exemple dans Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Et cela est valable pour chaque instant de la vie de celui qui est en Christ. Fabuleux, non? Chaque fois que vous pourrez dire maintenant, celui qui est enfant de Dieu, il n'y a aucune condamnation pour lui en Jésus-Christ. Maintenant. Et à chaque fois que vous pourrez dire maintenant, c'est le moment où Dieu entoure son peuple, ses enfants, pour les protéger. Le deuxième terme, toujours, indique la continuité, indique même l'éternité. Quand Dieu commence à entourer, c'est pour toujours. Lorsqu'il sauve quelqu'un, c'est pour l'éternité, et pas seulement pour une période de vie. Ce simple mot « toujours » ici nous permet de comprendre même l'assurance du salut. Car ce « toujours » ne dépend pas de moi, mais de Dieu qui ne change pas. On a vu sa stabilité tout à l'heure. L'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Donc la deuxième conséquence de se confier en l'Éternel est que nous sommes entourés par un protecteur stable. Et la troisième conséquence de se confier en l'Éternel est que nous sommes défendus par l'Éternel. Le verset 3 le souligne avec force. Relisons le verset 3 ensemble. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Alors, avant de tirer un enseignement de ce verset, ce serait peut-être utile de le comprendre. C'est ce que nous allons chercher à faire ensemble. Il est parlé ici de sceptre, ce qui signifie qu'il est parlé d'une autorité, d'un roi, d'un empereur. C'est lui qui avait un sceptre, qu'il utilisait pour signifier sa volonté. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'Esther, lorsqu'elle va devant le roi qui lui tend son sceptre pour lui accorder la vie. Donc, un sceptre signifie qu'il y a un roi. Deuxième élément à comprendre dans ce verset, c'est cette histoire de lot des justes. Qu'est-ce que c'est ce lot des justes? Eh bien, le lot fait référence au partage du pays promis, où chaque membre du peuple a reçu une part. C'est son lot. Et dans ce verset 3, il est question du lot du juste. Et il n'est donc pas question d'un territoire physique, mais spirituel. Nous avons donc un roi, qui s'appelle méchanceté, et un territoire qui s'appelle l'eau des justes. Ça va? On a besoin d'avoir ça pour comprendre. Hein? Et ce terrible roi aimerait placer son autorité, le sceptre, sur le territoire du juste. Et en y plaçant son autorité, il pourrait aussi obliger, puisqu'il est le souverain, le juste, à frauder, commettre l'iniquité, prendre part au mal, prêter la main à des actions coupables, selon les différentes traductions que vous aurez de ce terme frauder. En bref, le roi méchanceté aimerait faire pécher le juste en le prenant sous son pouvoir, en prenant son territoire. Et ce verset 3 est pour nous d'un extrême encouragement. Parce que regardez ce qui est écrit. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes. Ce sceptre ne reposera pas sur le lot des justes. Ce signifie que ce territoire est sous l'autorité d'un autre monarque qui est sous-entendu ici. Et cet autre monarque, c'est l'Éternel. Ainsi, le juste ne peut être obligé par le roi méchanceté de commettre le péché, car le juste n'appartient pas à ce méchant roi. Oui, il est vrai que ce terrible roi méchanceté, même s'il n'a aucun pouvoir, cherchera par tous les moyens, et il en utilise, je peux vous dire, à influencer le juste afin qu'il fraude. Mais il ne peut pas l'obliger, car il ne lui appartient pas. En fait, c'est le roi du territoire qui défend le juste, c'est l'Éternel. Et c'est ainsi que ce verset 3 nous conduit tout droit à 1 Corinthiens 10-13, qui applique cela à notre vie que nous avons lue tout à l'heure. Relisons ce verset dans 1 Corinthiens 10-13, je vous le lis. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Dieu est notre défenseur et notre roi. Dieu est notre défenseur et notre roi. Et lors des attaques du roi méchanceté, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Le roi méchanceté ne pourra jamais nous forcer à pécher. Comprenez ? Lors des attaques du roi méchanceté, il ne permettra pas, donc l'Éternel qui est notre roi, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Le roi méchanceté ne pourra jamais nous forcer à pécher. Ces 3 premiers versets du psaume 125 nous ont permis de comprendre que celui qui se confie en l'Éternel vit dans la stabilité et la sécurité. En nous confiant l'Éternel, nous sommes ainsi fondés sur l'Éternel, nous posons sur un fondement inébranlable. Nous sommes entourés par l'Éternel, il n'y a aucune brèche dans sa protection. Et nous sommes défendus par l'Éternel, rien ne peut nous obliger à pécher. Mais le pèlerin n'en reste pas là, il ne fait pas que constater ces merveilles. Il est bon de constater les merveilleuses vérités, il est important pour pouvoir ensuite faire un pas suivant. C'est en fait parler à Dieu, prier, lui demander de vivre en s'appuyant sur ses vérités. Le pèlerin a compris que la clé est de se confier en l'Éternel. Et c'est ce qu'il va faire maintenant par une prière. Donc il le met en pratique par cette deuxième partie du verset 4 à 5 que j'intitule « Le pèlerin se confie en l'Éternel ». Relisons ces deux versets. « Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. » Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. Le psalmiste confiant en l'Éternel fera ici 3 demandes. La première, c'est une demande de bienfait. La deuxième, une demande de jugement. Et la troisième, une demande de paix. Donc le pèlerin confiant, l'Éternel fait une demande de bienfait. Hein. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Quelqu'un a dit, et je vous le rapporte parce que je trouve ça tellement bien dit, les promesses de Dieu ne nous encouragent pas à la paresse. Au contraire, les promesses de Dieu descendent vers nous pour que nos prières montent vers lui. Et c'est vrai qu'en regardant nos cœurs, nous pouvons penser que cette demande de bienfait est inutile puisque personne ne peut être appelé gens de bien ou ceux dont le cœur est droit. Mais c'est oublier que celui qui est en Christ est revêtu de la bonté de Christ et la justice de Christ lui est imputée. Chaque chrétien peut donc être considéré comme étant une personne de bien ou celui ou celle dont le cœur est droit. Car il l'est réellement par Christ. Oh non, pas par nous-mêmes. Pas par nous-mêmes. Mais par Christ, oui. Tu peux être considéré comme une personne de bien, celui ou celle dont le cœur est droit. Non pas par nos œuvres, mais en saisissant par la foi l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, nous pourrons prier surtout, de tout notre cœur avec les pèlerins. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien, pour ceux dont le cœur est droit. Nous prierons pour nous-mêmes, nous avons besoin que Dieu nous fasse de bien. Nous prions pour nos frères et sœurs dans l'église locale. Nous pourrions dire, sois bienfaisant Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont malades, qui ont des inquiétudes, qui ont des problèmes au travail, qui vivent des tensions, qui ont des inquiétudes, qui sont fatigués. Fais-leur du bien, entoure-les de ta bonté selon ta promesse. Et nous pouvons prier pour les chrétiens du monde. Sois bienfaisant, Seigneur, pour mes frères et sœurs persécutés à cause de ton nom. Entoure-les, fortifie-les. Après cette demande pour les justes, le pèlerin fait une deuxième demande qui peut parfois un peu nous heurter. Il fait une demande de jugement. Verset 5, première partie. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Sommes-nous conscients que le jugement à venir est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ? Le jugement à venir est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons pas à craindre ce jugement, car il est déjà tombé sur notre Sauveur. Pas de crainte à avoir. Ce jugement est déjà tombé sur Jésus-Christ. Le jour du jugement sera pour nous un jour, en fait, de délivrance. Dieu va écarter tous les méchants, toute méchanceté sera bannie.
Ah, moi je me réjouis.
Plus de mal, vous imaginez?
J'ai de la peine, mais je me réjouis.
Plus de mal. Le jour du jugement, en fait, sera comme un gigantesque tremblement de terre. Tout sera secoué et rien ne restera s'il chancelle. Si quelque chose chancelle, ne reste pas. Si quelque chose ne subsiste pas, sera détruit. Et il n'y a qu'un moyen pour ne pas chanceler et subsister, c'est d'être fondé sur Christ. C'est uniquement là que ce tremblement de terre ne pourra rien détruire. Celui qui aura construit sur le sable s'effondrera. C'est celui qui a peut-être entendu la parole de Dieu, mais qui ne l'a pas mise en pratique. Lors du jugement, il est jeté dans l'étang de feu avec Satan et les anges déchus. Mais celui qui aura construit sur le roc, Christ stable et solide, c'est-à-dire qui a entendu les paroles de Dieu, qui les aura mis en pratique, ne s'effondrera pas. Il sera sauvé de tout mal. Il vivra éternellement dans le royaume de Dieu, purifié de tout péché, où il n'y aura aucune trace de mal. Comment donc faire partie de ce peuple de Dieu? Et en fait, le pèlerin, en faisant sa dernière demande, nous montre le chemin. C'est en demandant la paix. Vous savez, par nature, nous ne sommes pas en paix avec Dieu, mais en guerre contre lui. Personne ici, dans cette salle, n'a jamais été sans être en guerre avec Dieu. Tous ici, nous avons une fois été en guerre avec Dieu. Est-ce que vous en êtes conscient? Si quelqu'un pense ici n'avoir jamais été en guerre contre Dieu, c'est une preuve qu'il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Car il ou elle n'a pas reconnu son péché et sa gravité. Et si on ne reconnaît pas son péché et sa gravité, comment alors demander que Dieu nous sauve? Si c'est ton cas, implore Dieu de te montrer ton véritable état et prie Dieu de te donner en même temps la foi pour le salut en Christ. Parce qu'au moment où on se rend compte de son état, nous avons deux choix. Soit déprimé et chercher à oublier cela, à couvrir cette terrible découverte et trouver toutes sortes d'excuses. Quand on se rend compte que nous sommes en guerre avec Dieu, que nous péchons gravement. Ou bien nous pouvons prendre la responsabilité de nos actes, comprendre que nous ne pouvons pas changer ni payer et aller à la croix de Christ pour se repentir de notre péché et saisir par la foi l'œuvre de Christ. C'est alors que tu comprendras que c'est Jésus-Christ seul qui peut te réconcilier avec Dieu et te donner la paix. C'est Jésus-Christ seul. Ce n'est pas une vie chrétienne dans une famille chrétienne. On a grandi, on a toujours vécu de manière un peu... Voilà, on a l'impression qu'on n'est jamais en guerre contre Dieu. Ce n'est pas ça. Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, vous avez cherché à suivre ce que la Bible dit, vous êtes en guerre contre Dieu. La seule manière de ne plus être en guerre avec lui, c'est se repentir au pied de la croix, reconnaître son péché, saisir son salut et se réjouir d'être dans son royaume et d'entrer dans cette stabilité dont nous parlons ce matin. C'est alors que l'on rejoint la prière du pèlerin en disant de tout notre cœur et en comprenant maintenant ce que cela signifie, que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur l'Israël de Dieu qui est en Jésus-Christ, que la paix soit sur le peuple de Dieu qui est le corps du Christ, duquel je fais maintenant partie par sa grâce. Pour conclure, reprenons le début et la fin de ce magnifique psaume. Le début nous disait « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancellera pas, elle subsistera toujours. » Le pèlerin est appelé à se confier en l'Éternel, à mettre une totale confiance en lui, à tout lui dire, à tout attendre de lui, à tout faire pour lui, à chercher sa seule gloire. C'est ça, se confier en l'Éternel. C'est pas juste « j'ai un petit besoin, je vais vers lui ». Mais non, c'est bien plus. Et la promesse pour ce pèlerin qui se confie en l'Éternel sera la stabilité. Fondé sur l'Éternel, il pose sur un fondement inébranlable. Entouré par l'Éternel, il ne craint rien car il a un bouclier qui n'a aucune brèche. Et défendu par l'Éternel, rien ne peut l'obliger à pécher. Et le psaume se termine par « que la paix soit sur Israël » qui est aussi une conséquence de se confier en l'Éternel. Lorsque nous nous confions en l'Éternel, nous sommes dans la paix. Et là, je peux vous témoigner que Seigneur me permet par sa grâce et grâce à vos prières aussi d'être dans cette paix malgré parfois les montagnes qui sont devant moi. Je me dis, comment je vais y arriver? Mais quand il me donne cette grâce de me confier en lui, je suis dans la paix. Dans la paix. Si la dernière fois, nous avons vu que le plus grand danger était l'absence de Dieu, nous voyons aujourd'hui que le plus grand bien, c'est de se confier en lui. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, il est bon de nous confier en toi. Parce que tu es un Dieu qui est immuable. Non pas immobile, mais immuable, qui ne change pas. Un Dieu qui ne dit pas une parole et ensuite la change. Qui n'a pas une manière d'agir et tout à coup la change. Non, tu es ce Dieu qui nous montre d'où nous venons, où nous allons et comment tu transformes par l'œuvre de Jésus-Christ. Et Seigneur, j'aimerais te prier ce matin que si des personnes ici ne se sont jamais rendues compte qu'ils sont en guerre ou contre toi, que leur péché les empêche de venir vers toi même s'ils se croient justes et bons à leurs propres yeux, que Seigneur, il puisse être saisi par ton esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes conscients que ce ne sont pas des moments faciles. Et je te prie que ces moments, Seigneur, que tu permets dans ta grâce, soient accompagnés de cette foi en l'œuvre de Jésus-Christ, accompagnés de cette repentance, afin de pouvoir être réconciliés avec toi. J'aimerais te prier que nous puissions nous souvenir aujourd'hui, dans les jours à venir, que si le plus grand danger est que tu sois absent, le plus grand bien, c'est de nous confier en toi. Sois loué et béni, au nom de Jésus-Christ. Amen.